Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Nous continuons à avancer sur la route du bonheur. On pourrait dire l'autoroute du bonheur. Avec Saint Benoît. Et le titre de la conférence de cet après-midi sera l'humilité. Vous savez peut-être que les bénédictins sont considérés comme des spécialistes de l'humilité. Encore, quand on dit ça tout de suite... Ils ont les chevilles qui doivent gonfler. Alors pourquoi est-ce qu'on parlera de spécialiste de l'humilité? C'est tout simplement parce que Saint Benoît, dans la règle, a écrit un chapitre très important sur l'humilité où il énonce 7 degrés d'humilité. Et ces 7 degrés d'humilité sont restés dans l'histoire comme vraiment les fondements sur la doctrine d'humilité. Donc, tout le monde s'y réfère, à commencer par le prince des docteurs, le docteur commun de l'Église catholique qui s'appelle Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin parle de l'humilité dans la Somme de théologie. Il cite Saint Benoît tout simplement. Que Saint Thomas d'Aquin a été à l'école de Saint Benoît, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Saint Thomas d'Aquin a commencé par être un petit moine nion au Mont Cassin. Et puisqu'à l'époque, on mettait des enfants dans les monastères pour qui reçoivent leur éducation. Puis, quand ils grandissaient, ils avaient la liberté de choisir de rester moines ou d'aller ailleurs. Et lui, les vies de Saint Thomas d'Aquin, c'est un roman feuilleton. Et Saint Thomas d'Aquin, donc au Mont Cassin, vous comprenez que les 7 degrés d'humilité de Saint Benoît, il en a connu quelque chose. Du coup, lorsqu'il parle de l'humilité dans la Somme de théologie, il cite Saint Benoît, tout simplement. C'est pas un petit détail comme ça dans l'histoire de l'Église. Le docteur du docteur, on appelle ça docteur commun, Saint docteur commun, cite Saint Benoît sur l'humilité. Alors commençons justement par un premier chapitre avec l'humilité chez Saint Benoît. Entend, Saint Benoît se cache, puis se montre. C'est un jeu de cache-cache. Rappelez-vous, Saint Benoît part au Bagne, il arrive dans un petit village, là, par sa prière, il obtient qu'un instrument de cuisine soit réparé, et lorsque cet instrument de cuisine est réparé, il y a une renommée phénoménale qui naît autour de lui. Tout le monde parle de ce jeune homme qui a obtenu par sa prière la réparation d'un instrument de cuisine. Tout le monde, voilà, X, je ne vais pas donner de nom, a obtenu que son sac qui était cassé, en un instant, s'est retrouvé réparé. Et donc, Saint Benoît, voyant cette réparation, voyant cette renommée qui jaillit autour de lui, ne pense qu'à une seule chose, c'est à se cacher, son humilité. Première chose, il quitte Rome pour s'enfoncer dans la montagne, et ensuite, les miracles jaillissant autour de lui, il est obligé de se cacher pour que ces miracles ne se voient pas. Comme ça, autour des saints, parfois, ça peut être gênant. Et Saint Philippe Néri, messe, il avait des extases. On est obligé d'interrompre la messe. Alors lui, ce qu'il avait trouvé, c'est qu'il faisait venir des petits animaux pour se distraire, pour éviter d'avoir une extase. Et comme ça, la messe s'interrompait. Il regardait l'animal, et pof, l'extase arrêtait. Et il pouvait continuer sa messe, parce que c'était pas simplement pour cacher l'extase, mais c'était pour pouvoir continuer la messe. Donc, ne devenez pas trop de grands saints, parce que sinon, c'est... Alors, Saint Benoît se cache, part dans la solitude, et là, plus personne ne l'accompagne, il n'y a même plus sa nounou. Il a laissé sa nounou, il se retrouve tout seul. Mais malgré tout, et tout se sait, on n'arrive jamais à se cacher complètement. Donc, il a fini à le redécouvrir, parce que oui, il y avait des bergers dans la montagne, avec leurs bêtes, et puis qui trouvait celui-là. Ayant reconnu en lui un serviteur de Dieu, beaucoup d'entre eux passèrent d'une mentalité bestiale à la grâce de la piété. Écrit. Lui, Saint Benoît, qui ressemblait presque à une bête, Parce que Lanzarote, vous imaginez dans quel état il était. Quand vous voyez des jeunes qui font le tour du monde en sidecar ou en, quand ils reviennent, bon, en général, ils sont... Sauf Guy Larigaudi. Mais ça, c'est un coup de publicité pour les scouts. Justement, le chef, le grand chef scout, le général Lafont, faisait l'éloge de Guy Larigaudi, qui se lavait beaucoup pendant qu'il faisait son raid à Saïkon. Donc, c'est quand même possible. Mais Saint-Benoît, je crois que ça devait quand même être difficile parce qu'on l'a pris pour une bête. On l'a pris pour une bête, mais ce qui est justement très fin, montre que lui qui avait des allures un petit peu étranges comme ça, vivant dans la solitude, en fait, il était le civilisé. Ceux qui étaient bestiaux, ce n'était pas... Celui qui était bestial, ce n'était pas Saint-Benoît. C'était les personnes qui venaient rencontrer Saint-Benoît, qui n'étaient pas encore purifiées, le creuset de l'humilité. La véritable civilisation, le véritable civilisé, c'est celui qui est dans l'humilité. Et donc, Saint-Benoît, il avait peut-être des apparences de bestialité, mais en fait, il avait la vraie civilisation, qui est de l'humilité. C'est de cette façon que beaucoup d'entre eux passèrent d'une mentalité bestiale à la grâce de la piété, vous voyez. En fait, c'était eux qui avaient la mentalité bestiale. En apparence, ils étaient beaucoup plus civilisés, mais ils avaient une mentalité qui n'était pas aussi civilisée qu'on pourrait le croire, chrétiennement parlant. Et Saint Grégoire ajoute que le Dieu Tout-Puissant résolut, vous voyez, Saint Grégoire c'est bien parce qu'il sait ce que le Dieu Tout-Puissant a dans la pensée. En fait, il se contente de tirer les leçons de ce qu'il a observé dans la vie de Saint-Benoît. Le Dieu Tout-Puissant résolut désormais que la vie de Saint-Benoît, de Benoît, serait offerte en exemple aux hommes afin que brille la lumière posée sur le chandelier. Ça veut dire que Saint-Benoît, dans un premier temps, il se cache et dans un deuxième temps, il va se montrer. Donc l'humilité n'est pas toujours uniquement de se cacher, c'est aussi de se montrer. C'est d'être ce qu'on est, tout simplement. Si vous avez des qualités, il ne faut pas vous dire pour autant que vous êtes orgueilleux. Je suis doué pour telle chose, c'est pas juste. Si les autres le voient, c'est pas un péché non plus. Tout évidemment, c'est pas chercher à en faire étalage. Si vous cherchez à en faire étalage, là, évidemment, il y a sans doute quelque chose de désordonné. Et à partir de ce moment-là, beaucoup dès lors commencèrent à quitter le monde et s'empressèrent à le prendre pour maître. Saint Benoît est devenu à son tour un maître. Saint Grégoire ajoute, il n'a pas laissé de resplendir par ses paroles et par son enseignement. C'est à la fin de la vie de Saint Benoît. Il dit parfois que la règle de Saint Benoît est assez meilleure. Il y a quand même des études qui ont été faites. Moine du Mont Cassin, qui s'appelle Don Anselme Lantini, remarque que dans la règle, il y a un emploi du numérus enseigné par les grammairiens, qui pose et manifeste un sérieux apprentissage de la scolastique. Saint Benoît n'était pas complètement ignorant. Et tout humble qu'il fût, il va rayonner, y compris par sa règle, par le texte de sa règle. Rappelez-vous que la règle de Saint Benoît va construire le Moyen-Âge. C'est à l'école de la règle de Saint Benoît que vont vivre les bénédictins qui vont se répandre à travers l'Europe. Et autour de ces monastères, les familles vont progressivement être imprégnées de l'esprit de la règle de Saint-Benoît. Ils viennent à la messe le dimanche, les assistent, voilà. Et de cette manière, la règle de Saint-Benoît rayonne tout autour de chaque monastère, et des quantités de monastères, et sur le clergé non monastique. De telle sorte que, on peut dire que la règle de Saint-Benoît a vraiment forgé l'Europe chrétienne. Et cette règle qui donc n'est pas du tout méprisable, même au point de vue littéraire et théologique. Plus littéraire, on remarque, outre les emprunts faits à la Sainte Écriture et au Père, de fréquentes réminiscences de textes d'auteurs classiques. Alors, pour ceux qui connaissent pas d'interrogation écrite à Curtius, Salluste, Terence, Virgile, Stas, Horace, Juvénal, Titive, Ovide, tous ces auteurs-là sont en filigrane, plus ou moins en réminiscence, dans la règle de Saint-Benoît. Dit que Don Schuster, qui est devant, comme le dit Saint-Grégoire le Grand, il a resplendi par les paroles de son enseignement. Doctriné quoque verbo non médiocriter fulsit. Et il a écrit une règle monastique remarquable par son esprit de discernement et lumineuse par son style, terramone luculentam, dont la vie de Saint-Benoît est aussi un chef-d'œuvre littéraire. Albert de Vaugue, moine de la pierre qui vire, qui a été professeur pendant longtemps bar des Roms, a analysé de près la structure des chapitres de la vie de la Saint-Benoît écrit par Saint-Grégoire. Bien organisé. Il ne faut pas s'imaginer que parce que Saint-Grégoire a fait exprès d'affecter un style très sain pour les enfants, que cette vie de Saint-Benoît n'est pas très soignée. Dehors du livre de... Oui, il y a aussi un autre livre qui a été écrit, collaboration par des moines et des oblats. Nous, des oblats, chaque année, nous avons des retraites d'oblats, qui veulent s'associer de manière plus intime à la vie, vivre de l'esprit, et de faire chaque année une retraite. Comme ils ont au moins une retraite chaque année. En ce moment, on leur parle souvent de Saint-Benoît. Grand B, Benoît lit des pensées d'orgueil dans le cœur d'un religieux. Ah, ça, c'est intéressant. Un moine orgueilleux. Ah ! Parce que vous savez, on a tous l'esprit un peu voyeur. On aimerait bien voir ce qui se passe à l'intérieur des monastères et on voudrait savoir ce que les moines vont accuser comme péché. Et là, on va avoir en direct un péché d'un moine. Chapitre 20 de la vie de Saint-Benoît, écrit par Saint-Grégoire. Certains jours, alors que l'heure était déjà vespérale, le vénérable père Benoît prenait des aliments pour le corps. Il y avait là un de ces moines qui avait été auparavant fils d'un protecteur, c'est-à-dire quelqu'un, et qui lui tenait la lampe devant la table. Mais comme l'homme de Dieu mangeait et que l'autre restait là, debout, accomplissant son service, il se mit à rouler silencieusement des pensées dans sa tête. Il se disait en cogitant, c'est le texte de Saint Grégoire, qui est-il donc, celui-ci, que moi, j'assiste pendant qu'il mange, et un repas qu'on vient de terminer, pendant qu'il mange, à qui je tiens la lampe auquel je rends ce service, qui est-il donc, celui-ci, et qui, moi, fils d'un protecteur, qui suis-je, moi, pour servir cet être-là? Et c'est facilement des points. Nous sommes un peu humiliés dans cette chose. Dernière roue du carrosse, ces cogitations qu'il y a dans ce chapitre 20 de la vie de Saint-Benoît, tout ce qui est applicable à tout le monde. Là-dessus, l'homme de Dieu, Saint-Benoît, s'étant aussitôt retourné, il a compris ce qui se passait dans la tête. Il se mit à lui faire de violents reproches, lui disant, digne ton cœur. Digne ton cœur, qu'est-ce que tu dis là? Sur le champ, appelant les frères, il prescrivit qu'on lui retire la lampe des mains. Quant à lui, il lui ordonna de quitter son service et d'aller s'asseoir tranquille. Ils lui ont dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il avait dans le cœur? Et Saint-Benoît a raconté, point par point, de quel esprit de superbe il s'était enflé et les paroles qu'en pensée il avait prononcées contre Benoît, en ce que, étant, comment Saint-Benoît, étant en Dieu, voyait comme Dieu. Voilà que cherche à nous faire. On est en Dieu, on voit comme Dieu. Voilà, c'était vrai, c'est arrivé, et le curé d'Ars, ce qu'il y a dans le cœur des autres. Pensez l'enseignement de Saint-Benoît. Voici comment Benoît XVI, dans une audience de 2008, résume l'enseignement de Saint-Benoît. On voit que l'humilité y tient une place centrale. C'est Benoît XVI qui justement était si attaché à Saint-Benoît. De Benoît, c'est parce qu'il aimait beaucoup la règle de Saint-Benoît, la vie de Saint-Benoît et l'ordre bénédictin. C'est une homélie. Quand il est arrivé au monastère, il nous a prononcé quelques paroles au chapitre, ça a duré juste quelques... ça allait durer juste heure. Pendant les trois quarts d'heure, il a décrit tous les phénomènes de crise de la foi qu'il y avait dans le monde entier. Conclusion, très brève. Quel remède? Réponse, c'est fait. C'était quand même... Il a expliqué ensuite que cette liturgie montrait la foi de manière concrète et que dans une période de crise comme ça, on a besoin de percevoir de manière concrète par un agenouillement, par des gestes extérieurs, la répercussion sensible de la foi spirituelle que nous avons dedans. Particulièrement forte et vivace. Et c'est justement l'élément qu'apporte tout celle de la forme extraordinaire qu'a indiqué Benoît XVI lui-même lorsqu'il a promulgué le motu proprio en 2007. C'est une richesse très spéciale pour la. Donc voici ce que dit Benoît XVI sur Saint-Benoît.
en opposition avec une réalisation personnelle, facile et égocentrique, aujourd'hui souvent exaltée, l'engagement premier et incontournable du disciple de Saint-Benoît est la recherche sincère de Dieu. Dans la voie tracée par le Christ humble et obéissant, ne devons rien placer avant l'amour pour celui-ci. C'est précisément ainsi, au service de l'autre, qu'il devient un homme de service et de la paix. Vous voyez, ce sont des choses souvent qu'on a tendance à opposer de nos jours. On a l'impression qu'il faut être soit un homme de service et d'amour et de charité et de paix, soit être une sorte d'homme rituel attaché au culte, complètement desséché. Alors qu'en fait, les deux sont faits pour aller ensemble. Lorsqu'on honore Dieu de manière digne dans une liturgie sacrée, on se prépare de manière très prochaine à lui rendre amour pour amour et à diffuser la paix, la tranquillité et l'harmonie, à opposer les deux. On va s'imaginer que c'est par l'horizontalité de la société qu'on va réussir à engendrer la fraternité. C'est au contraire par la verticalité d'un culte dressé vers la transcendance de Dieu à l'école de Saint-Benoît qu'on va pouvoir véritablement faire l'unité dans la société et avoir une profonde charité. Chapitre 2, l'obstacle à sauter, l'orgueil. Je citerai ici Platon. Son dialogue, les lois. Et oui, Platon a beaucoup d'aspects pré-chrétiens. Les lois, c'est un dialogue de la fin de la vie de Platon. Il semble que Platon soit revenu au réalisme, il soit plus réaliste qu'on présente parfois. Le plus grand de tous les maux est inné dans l'âme de la plupart des hommes, et chacun se le pardonne sans chercher aucun moyen d'y échapper. C'est ce qu'on entend quand on dit que tout homme est naturellement ami de soi-même, et qu'il est dans l'ordre que l'on doit être ainsi. C'est en réalité pour chacun, en chaque circonstance, la cause de toutes les fautes du fait de l'amour excessif de soi-même. Que s'aimer soi-même, c'est pas de l'orgueil. C'est bon. C'est pour ça qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. S'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, ça veut dire s'aimer en Dieu. S'aimer en restant chacun à la place que Dieu veut pour nous. Ce qui est mauvais, c'est l'amour excessif de soi-même. Et ça, Platon l'avait déjà compris. Car celui qui aime s'aveugle sur ce qu'il aime, au point de mal juger du juste, du bon et du beau, dans l'idée qu'il doit toujours préférer son intérêt au vrai. Car ce n'est ni soi-même ni ses biens qu'on doit chérir si l'on veut être un grand homme, c'est le juste, que l'action juste soit la sienne ou plutôt celle d'un autre. Nous, avec toutes les ressources de l'Évangile, on n'est pas capable d'arriver au même. Chapitre 3, trois sortes d'humilité. Il y a d'abord l'humilité du ver de terre. En fait, c'est l'humilité du Christ sur la croix. Christ qui est venu servir et non être servi, qui s'est vidé, pour ainsi dire, en se faisant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et il faut que nous rappelions qu'il n'y a pas d'humilité sans humiliation. C'est-à-dire qu'il y a toujours des occasions dans lesquelles on perdra. Et à se dire, moi je suis humble, c'est-à-dire que dans chose, bien, chose que nous y envoyons. Quand surviennent, malgré nous, des humiliations, il faut être prêt. Il faut se dire que c'est normal. Nous sommes en train de ressembler à Jésus. Donc je pense qu'il ne faut pas chercher à courir après les humiliations. Il y a certains saints qu'on voit empressés à faire cela. C'est possible. Mais il ne faut pas se prendre pour plus que vrai. Et se dire que, déjà, si on arrive à accepter les humiliations qui se présentent, c'est bien et c'est très suffisant. Et en fait, on est plus sûr qu'on n'aura pas de recherche de soi-même si on se contente d'accepter ce qui vient que si on va rechercher des choses. Que quand vous recherchez quelque chose, eh bien ça peut être aussi une forme d'orgueil subtil. Alors que si vous vous contentez d'accepter les humiliations qui sont présentes, là j'ai perdu un peu la face, eh bien si vous vous habituez à vous dire « j'ai perdu la face », bonne chose, bon, très bonne chose, je sais que ça y est, j'ai une occasion supplémentaire de rentrer dans l'intimité avec le bon Dieu. Beaucoup bénéficié, vous avez tout gagné. Vous avez l'impression d'avoir été humilié, d'avoir perdu la face, mais vous avez gagné la face. Un deuxième type d'humilité, c'est l'humilité du grain de sable. Pas exactement la même chose que le ver de terre, parce que le ver de terre, il y a quelque chose de vraiment dégoûtant, quoi. Bon, c'était répugnant, elle était honte, quoi. Le grain de sable, on ne le voit pas spécialement, il est perdu dans le tas, mais enfin, il n'y a rien de... Non. Alors on peut dire, c'est une forme d'humilité, je vais me cacher, je vais perdre dans le groupe. On va chercher à en faire plus. C'est la neutralité, c'est pas la nullité, c'est la neutralité. Personne ne me remarque. Et c'est vrai que c'est une grande humilité. C'est un moyen de pratiquer l'humilité, de ne pas chercher à trop se faire remarquer. Mais aussi, il faut voir qu'il peut y avoir de très bonnes raisons de se faire un petit peu remarquer, pour, ne serait-ce que pour distraire la compagnie, pour aider les gens. Mais alors là, on peut aussi, quand on cherche à distraire les gens, à chercher à discrètement mettre les autres en valeur. On va en profiter justement du fait qu'on a des capacités dans les relations humaines pour faire parler les autres, pour les mettre sur le devant de la scène, plutôt que nous-mêmes de chercher tout le temps à briller. Pas non plus mauvais qu'on sorte des plaisanteries, qu'on rigole pour que son dosage. Là, c'est sûr que les saints, spontanément, ils adoptent des attitudes modestes et des tenues réservées en une juste mesure. Mais si par exemple, si vous me pardonnez l'expression, et bien on se dira, tiens, ben voilà, c'est là. Ça peut être une façon de se désigner comme un peu spécial à la façon des autres. Tandis que si on est habillé un peu comme tout le monde, alors à ce moment-là, bon, on passe inaperçu. Troisième sorte d'humilité. Alors du coup, honte du ver de terre, il peut y avoir la nullité table qui se cache. Mais le problème, c'est qu'on a des qualités, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas les cacher. Donc il y a une troisième sorte d'humilité, c'est l'humilité de l'étoile dans le ciel. L'étoile, elle brille. C'est que c'est le bon Dieu qui l'a fait briller. L'humilité, c'est d'être une star. Cette humilité, elle est désignée, si on peut dire, lorsque l'être bénit l'eau à l'offertoire dans la forme extraordinaire, vous avez restauré notre nature d'une manière plus admirable encore. Mirabilius reformasti. La prière de bénédiction de l'eau est très riche, évoque la divinisation de notre nature par la grâce. Comment nous sommes enrichis de manière ineffable. Mirabilius reformasti. Le bon Dieu, il a un grand projet pour nous. Il veut que nous soyons des étoiles, pas nous écraser. Seigneur, j'aime la beauté de votre maison et le lieu de gloire où vous habitez. C'est le psaume 25 que récite le prêtre au moment. J'aime la beauté de votre maison et le lieu de gloire où vous habitez. Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu de gloire? Qu'est-ce que c'est que cette beauté de la maison? C'est pas simplement cette belle cathédrale. C'est mon lit où je peux rendre un culte à Dieu, je peux l'honorer dignement. Les bonnes œuvres, les dons de Dieu et les saints eux-mêmes sont la beauté de la maison de Dieu, en tant que brille sur eux la grâce divine qui embellit comme la lune. Chapitre 4, laquelle des trois humilités choisit? A. Au jour le jour, vivre les choses comme elles se présentent. Et pour vivre les choses au jour le jour comme elles se présentent, je vous propose de suivre trois conseils que donne Don Gérard dans son livre « Demain la chrétienté ». Peut-être ce livre qu'il a écrit en 1980, montrer que le projet de la chrétienté n'est pas quelque chose qui est dépassé, mais qui est au contraire l'avenir. Dieu n'a pas voulu une chrétienté, alors on se demande pourquoi Jésus-Christ est né. Si Dieu a voulu que la foi et la religion soient uniquement dans les alcôves, dans le fond de notre cœur, et pas dans les écoles, dans les parlements, bien, la réalisation de cette chrétienté peut se faire au jour le jour, de manière quotidienne, indépendamment du travail éthique et législatif, qui est très bon, mais sur lequel je n'insisterai pas. Voici les trois points que mentionne Don Gérard. Premièrement, la piété filiale. Vivre les choses au jour le jour comme elles se présentent, c'est déjà pratiquer la piété filiale. Et pratiquer la piété filiale, c'est déjà en famille, respecter les parents, les grands-parents, mais ça veut dire respecter tous ceux qui sont pour nous des pères. Ça peut être des pères dans l'ordre spirituel, ceux qui ont engendré, mais aussi au point de vue de la doctrine surnaturelle. Puis, la piété filiale se réalise également au point de vue de la société. Les peuples auxquels on est redevable. Par exemple, nous sommes redevables à Athènes et à Rome. qui était filiale à exercer l'héritage que nous avons reçu. Deuxièmement, deuxième manière de pratiquer au jour le jour l'humilité en vivant les choses comme elles se présentent, c'est de se laisser baigner de liturgie. La liturgie et en particulier le chant grégorien. Don Gérard écrit ceci à propos de la liturgie. Nous avons déjà relevé l'influence surnaturelle de la liturgie, influence douce et régulière, si parfaitement accordée à une nature assoiffée d'éternel et enfoncée dans un monde de signes. Parmi les moines qui, du temps de Saint-Benoît, frappaient à la porte du monastère, il y avait des hommes de culture très différentes, des goths, mêlés à des esclaves affranchis, côtoyaient les fils de patriciens. Le fleuve liturgique brassait tout ce monde, donnant à chacun, dans un grand détachement de soi, le sens de l'égalité des âmes dans la hiérarchie différenciée des fonctions. La messe du prêtre seul, la messe du prêtre seul, avec prêtre, diacre, sous-diacre. Nous pouvons témoigner aujourd'hui encore du caractère éducateur de l'action liturgique continue. Elle relie l'homme à ses pères dans la foi. Elle éclaire l'intelligence par le choix des textes, affine l'esprit par la subtilité des symboles, meuble l'imagination par la richesse des images, discipline le corps, calme la sensibilité et assigne à chacun sa place d'où il ne peut pas plus sortir qu'un astre inscrit sur son orbe par le doigt divin. La liturgie n'est pas seulement un monument de beauté et de poésie où se trouvent réunis tous les trésors de la sagesse et de la science. Elle est maîtresse d'horizon. Elle réclame l'obéissance à la règle de prière qui est règle de foi. Elle interdit les retours sur soi, éveille le sens de l'admiration, dresse vers le ciel l'âme de ses enfants et anticipe sur le ciel en leur faisant chanter les grandes actions de Dieu. Et le grégorien est un instrument privilégié pour nous dresser ainsi vers le ciel. Le grégorien est un chant qui pose une certaine purification de la sensibilité. C'est un chant qui est plus difficile que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus agréables, plus faciles, plus agréables pour la sensibilité. Mais néanmoins, le grégorien, lui aussi, nourrit notre sensibilité parce que quand vous y regardez de manière très attentive, la mélodie épouse le texte. Lorsque la mélodie monte, lorsqu'elle descend, c'est pour indiquer un accent dans les paroles. Et ainsi, la spiritualité rentre par la mélodie. Ce n'est pas simplement le fait de calmer le jeu, vous savez, le côté un petit peu psy du grégorien. Je connais quatre qui font acheter des disques de grégorien alors qu'il le calme des passions. Mais c'est aussi cet enrichissement très profond. Paroles sont doublées d'une mélodie à multiplier la signification. La mélodie est encore en quelque sorte un double du texte. Par la mélodie grégorienne, vous pénétrez plus profondément, pour ainsi dire, le texte de l'Évangile. Et la purification qu'oblige le grégorien, puisqu'il est moins, est très en harmonie avec la béatitude des pauvres, en purifiant notre sensibilité que nous pouvons entrer dans l'amitié avec. Donc par l'esprit de pauvreté que nous pouvons rentrer plus profondément. Et cet esprit de pauvreté est rendu perceptible et sensible par le chant grégorien. Donc le chant grégorien est une école de spiritualité, c'est un moyen d'approcher de Dieu. C'est pas un truc esthétique pour faire plaisir à quelques personnes qui sont amateurs de Moyen-Âge. C'est un moyen de s'approcher de Dieu, le grégorien. Entre en Dieu dans le grégorien. Alors on comprend comment André Charlier a raconté « Le jeune homme que j'étais à 18 ans, qui n'avait pas encore la lumière, qui cherchait son chemin dans une grande ténèbre en quête d'une vérité qu'il pressentait confusément, une vérité vivante faite pour l'âme et non seulement pour l'esprit, eut la révélation de la sainteté par le chant grégorien. » Donc il était né dans une famille anticléricale où on faisait des repas blasphématoires le vendredi saint. Assisté à des cérémonies franc-maçon, lui étant petit enfant. Franc était anticlérico, et ce moment, il bouffait du curé à longueur de conversation. C'est de quoi il parle. Il eut la révélation de la sainteté par le chant grégorien. Le grégorien est capable de faire des conversions. On pourrait citer plusieurs autres exemples, dont un relativement récent. Troisième point, la communauté. La règle de Saint-Benoît enseigne-t-elle l'humilité à l'aide d'une méthode particulière, par des humiliations systématiques, par l'influence régulière de la vie commune? Il y a une sorte d'osmose qui se fait. Et si en famille, ou bien dans les groupes que vous tentez, par exemple votre association, il y a exemple des uns sur les autres, il y aura une osmose qui va se créer. Il y aura une émulation. Vous aurez tous envie d'avancer plus vite vers le ciel. La communauté est une ressource très grande pour grandir dans l'humilité et pour pratiquer au jour le jour ce que j'ai appelé l'obéissance au devoir quotidien. Vivre au jour le jour les choses comme elles se présentent. Point B, ce qui supprime l'alternative entre les trois sortes d'humilité, c'est l'effondrement. Ah, on est en train d'arriver à une sorte de sommet. Il faut bien comprendre que quelqu'un sera vraiment humble la plupart du temps. Je vous ai parlé des humiliations qui sont nécessaires, mais quand on a parlé des humiliations, on n'a peut-être pas encore parlé du fond. Humiliations, bon, des petites humiliations, on perd un peu la face. Mais il arrive dans l'existence certaines choses qui sont beaucoup plus que des humiliations, des petites humiliations, des effondrements. Ça peut être des épreuves, ça peut être des épreuves professionnelles. En fait, chacun a dans son existence, un moment ou un autre, un effondrement. Il ne faut surtout pas se dire, j'ai un effondrement, donc tout est perdu. C'est à ce moment-là que l'humilité peut véritablement s'enraciner en nous. La raison déjà nous persuade assez bien, Tridon Gérard, que nous sommes des êtres dépendants, infirmes, limités, que nous avons besoin d'une surveillance, d'un support, d'une communauté, et que ce que nous avons de meilleur, c'est ce que nous avons reçu. Cette forme d'humilité, faite de détente, de consentement et d'inattention à soi-même, rejoint la paix intérieure et l'esprit d'enfance. Bien qu'elle s'identifie à notre être de créature, il faut parfois, pour y atteindre, un effondrement intérieur, comme celui d'un bonheur brisé. Les Grecs de l'Antiquité savaient fort bien où mène la volonté de puissance. Ils connaissaient la lassitude du pouvoir et le désenchantement. De là naissait une inquiétude profonde dont témoigne leur théâtre. Dans l'Œdipe à Colonne de Sophocle, le vieux roi aveugle, conduit par sa fille Antigone, lui déclare « Promettre la douleur, le temps, la royauté dans le sang » m'ont appris la patience. Le temps, royauté dans le sang, m'a appris la patience. Y a-t-il un endroit, continue-t-il, pour se reposer, mon enfant, où je puisse m'asseoir sur une terre profane ou dans un enclos sacré? Et tandis que je me repose, demande où nous sommes. Je serais insensible à une telle détresse. Ce roi devenu aveugle et mendiant, n'est-ce pas l'image de notre infortune? Chapitre 5, quelques conseils pour grandir dans l'humilité. Premier conseil, ne pas dire ce qui est à notre éloge. Le frère d'André Charlier, qui s'appelle Henri, racontait à propos de sa mère, qui s'appelait Berthe, fille de vigneron de Bourgogne. Elle régissait habilement son ménage comme les maîtresses de domaine des anciens temps. Jeune fille, on lui faisait goûter les vins, humer les fûts pour avoir son avis. Elle buvait de l'eau rougie par décence, car boire de l'eau paraissait en ce milieu comme une faiblesse mentale. Un ami de son mari, plus tard, voulut lui faire tirer à la carabine. Il expliqua la visée, la ligne de mire, le point de mire. La jeune femme mit toutes les balles au milieu dans le même trou et ne tira plus jamais de sa vie. C'était bien inutile et trop facile. Et ses enfants ne l'ont pas su par elle, vanité lui est chère. Petit 2, accepter les remarques. Tim Guénard, vous connaissez sans doute tous Tim Guénard, lorsqu'il fait ses livraisons à la maison de la radio, et voit des artistes qui répètent. Pour la plupart, ces répétitions sont laborieuses. Ils reprennent une chanson depuis le début à cause d'un défaut inaudible pour le profane. Là, ils sont stoppés dans leur effort. Et c'est très intéressant de voir la façon dont chacun réagit. Certains obéissent sans un mot, dit Tim Guénard. D'autres baissent. Et d'autres prennent ça en rigolant. D'autres, enfin, sensibles à l'extrême, vivent ces interruptions comme un échec et une offense. On voit ça, on s'amuse bien, et en fait, on est drôle, nous, on vit chacune de ces réactions. Il faut que nous apprenions à accepter les remarques. Tim Guénard commente, je les sens près de craquer, je les admire follement. Tout ce travail, toute cette peine pour aboutir au soir, du grand soir, à cet instant magique et sacré où l'artiste pénètre sur scène, traque au ventre, aveuglé par les projecteurs, affrontant un public avide et difficile, prêt à tout donner, splendide et solitaire, comme l'étoile qui monte au couchant. Bien, essayons de voir, nous, comment nous réagissons quand on nous fait une remarque. Est-ce que nous sursautons? Est-ce que nous nous cabrons? Est-ce que nous nous vexons? Est-ce que nous boudons? Est-ce que nous nous brouillons? Jacques Fesch, dont j'ai déjà parlé, quand son avocat lui a mis le nez dans ce qui n'allait pas chez lui, au lieu de se braquer, il s'est... Troisième conseil, accepter ses faiblesses. Toujours Tim Guénard. Je suis impatient de me battre. J'ai envie de cogner. Patron du club de boxe me donne une corde à sauter. Allez, comme les autres. J'essaie de passer cette ficelle au-dessus de ma tête, puis sous mes pieds, en la faisant tournoyer, je m'y prends comme un manche. Je m'embrouille les pattes dans la corde, je manque de tomber par terre, toute la salle rit de ma maladresse, ma vanité en prend un coup, ressemble à un taurillon égaré dans l'arène qui ne sait où porter son premier coup de corne. Je mets mon mouchoir sur mon humiliation. Être encore converti, est-ce que nous aussi le faire? Mettons notre mouchoir sur notre humiliation. Et enfin, quatrième exemple, accepter de reconnaître ses torts. Alors là, il raconte toute une histoire, Tim Guénard, mais comme c'est à peu près l'heure, je peux peut-être la sauter. Donc on va s'arrêter là. Et mentionner seulement qu'il y aurait ainsi un cinquième conseil. Donner supprime l'égoïsme. Lorsque vous donnez, vous n'êtes plus enfermé sur vous-même. Vous perdez l'égoïsme. Versez dans les autres, et donc ça vous aide à être humble. Nous arrêtons là. Bon exemple du vide effacé. Peut-être pour une fois, j'aurais été humble pendant la retraite.
Maintenant, au musée, il y a 18-20 personnes. Et rapidement, un musée, c'est à côté de la. Les autres, on va aller à la